Vous écoutez
RMC.
RMC.
Dans cette Ligue 1-là, avoir des éclairs, c'est déjà avoir une bonne boulangerie. Hein.
Kylian, c'est vrai que c'est incroyable. Il nous a fait comme dans FIFA. L1, accélération et double joystick droit.
C'est la Suisse, là, Kevin, non, hein, devant te positionner. Là.
Je ne suis pas la Suisse, ouais. Je suis l'Elysée.
J'appelais le standard et à l'époque, Max, c'était un peu comme une séance de psy. Tu vois, j'appelais le 32-16, ça coûtait moins cher que d'aller chez le psy.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Génération After ce soir et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, nous regarde sur After Foot TV. Autour de la table, Kevin Diaz. Salut Kev.
Salut à tous.
Ça va KD?
En forme?
Écoute, ça va.
Walid est là également en face de toi ce soir. Salut Walid Acharchoua.
Salut Nico, salut à tous.
Et Jimmy Brown aussi. Salut Jimmy.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Et notre invité, on a eu Samir Nasri il y a deux semaines. On a eu Gaël Clichy hier. C'était bien?
Très bien.
Mais là, on monte d'un cran. Ce soir, on a invité un joueur de padel. Adil Rami est avec nous ce soir dans Génération After. Salut Adil.
Salut, salut tout le monde.
Un champion du monde ce soir avec nous pendant 2h jusqu'à 22h. Bon Adil, comment ça va? Ta journée s'est bien passée?
Ça va très bien, j'ai fait un petit tournoi de padel. Voilà.
C'était pas brillant il paraît.
C'est pas dingue. Je suis pas dingue au padel. Je me démerde pas mal, mais je suis pas.
Si ça va, ça va, ça va.
Correct.
Moi je l'ai vu aujourd'hui dans ce tournoi-là. Il cuisine.
Meilleur que Samir Nasri, que
c'est
Jérémy
pas même. C'est pas même style de jeu.
Ouais, d'accord.
Beaucoup plus offensif.
On ça quand on veut pas dire.
Non, beaucoup plus offensif, Adil.
D'accord.
T'as pas joué dedans? Si j'ai joué.
Et alors?
Mais on s'est pas rencontré.
Ouais.
On a perdu un quart de finale.
Très bien.
Joué avec qui?
Avec Mathieu Bodmer.
Et qui est très bon joueur aussi.
Très, très
ça
bon
s'est
joueur.
Bien passé avec Mathieu,
très,
malgré
très
la défaite. Tout
oh,
ça.
Non, ouais, on a une petite explication de texte à la fin, après la déception, parce que je l'ai un peu crevé, mais ça fait partie du jeu, malheureusement.
Il n'y a pas dit un truc du genre, Walid, quand la pression monte, on le perd?
Si, il m'a reproché, il m'a dit que d'accord. Quand tu joues au Camp Nou, t'as du mal.
Et en parlant de Mathieu Bodmer, c'est lui qui m'a donné ma première paire de chaussures. Je suis arrivé en pro avec Claude Puel et je lui ai gratté une paire de chaussures.
À Lille,
exactement. Ouais, et il me les a envoyés. Il m'a dit, tiens, prends mes crampons. Et c'était des vapeurs, incroyable.
Magnifique, généreux. Depuis 20 ans.
L'humain, il est comme ça. Mère.
L'humain, il est comme ça. Le footballeur, il était comme ça aussi,
exactement,
quand même.
Exactement, exactement.
Deux heures avec toi, Adil, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. Vous pouvez poser vos questions à Adil Rami, notre invité ce soir. Faut-il rappeler que tu as joué à Lille, Valence, Milan, Séville, Marseille, Fenerbahçe. C'était un peu rapide.
Ouais.
Fenerbahçe.
Non, c'était pas cool.
Voilà, en plus. Boavista et Troyes. Retiré des terrains depuis deux ans maintenant et désormais consultant Ligue 1 Plus également.
Ça passe
bien.
Très bien. Ouais, j'aime beaucoup l'équipe, je me sens bien et avec le temps et l'âge, je me suis dit, voilà, c'est toujours bien de rejoindre une équipe où je me sens bien, je me sens naturel, où je force absolument rien et la Ligue 1 Plus me le permet.
Bon, et je rappelle que sans nous, tu n'y serais peut-être pas. Hein, parce que c'est RMC qui t'a lancé dans le grand bain médiatique.
C'est vrai. Ouais, j'étais en activité encore. Hein.
C'est vrai en plus.
À Boavista.
Exactement. J'étais à Boavista. J'ai essayé de me relancer parce que j'ai été blessé pendant un an au genou. Il y a un gros problème au genou. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et c'était pas mal, mais à distance. Je préfère être sur RMC, mais sur place. Là, je sens les ondes, les énergies. C'est pas pareil sur place.
Boavista, de Gérard Lopez, hein.
C'est exactement ça.
Et t'as toujours été payé chaque mois, le salaire est tombé.
Ouais, il y a eu un petit truc à la fin, un petit peu compliqué. Mais ils m'ont quand même payé.
Avec Gérard Lopez.
Ouais. Mais là, j'ai eu la chance de manger avec Luis Campos à l'époque. Il m'avait demandé de rejoindre et d'aider Boavista. J'avais dit avec grand plaisir. Et aujourd'hui, c'est devenu un ami et ça fait plaisir.
Et Nico, en parlant de Ligue 1 Plus, comment ça se fait que t'as rempilé? Parce que t'as eu plusieurs vies médiatiques depuis la fin de ta carrière. On en avait un peu discuté en off. Et à Prime Video, t'étais plus vu comme quelqu'un qui était dans l'ambiance, notamment dans l'humeur. Et là, je trouve que t'as eu un virage foot, vraiment foot.
Ouais.
Comment s'est passée cette transition? Parce que voilà, on a eu le Adil Rami, un petit peu star, etc. Non. Là, je trouve que tu t'intéresses beaucoup plus au foot et tu parles un peu plus de foot.
Exactement.
Est-ce que c'est la transition sur Twitch, etc.?
Je pense que c'est Twitch qui m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai beaucoup de... Bah ça, on le sait, c'est pas une surprise. J'aime l'humour. Et j'en fais beaucoup. Derrière, quand j'ai commencé sur Twitch, j'ai mis de l'humour et aussi du sérieux dans mes résumés de match, dans l'aspect tactique et aussi mental. Et j'ai constaté que ça a beaucoup plu sur Twitch. Et derrière, ça a attiré l'œil de personnes, pas mal de monde sur Ligue 1 Plus qui m'ont proposé. Et ma première réponse à la demande de la Ligue 1 Plus, c'était OK. Mais je veux garder ce que je fais sur Twitch.
D'accord.
Voilà, sur la
tactique. Tu continues ton stream sur Twitch?
Non. Je préfère parler tactique,
d'accord,
de ce que je sais, de ce que j'aime. Et j'ai pas envie qu'on m'amène sur des questions qui ne m'intéressent pas. sur l'histoire d'un club, sur la hiérarchie du président, des embrouilles qui peut y avoir aussi au niveau de l'oseille, tout ce qui est autour de tout ça, c'est pas mon domaine. Et ils ont dit avec grand plaisir, si on te recrute, c'est pour réellement faire ce que tu fais sur Twitch.
Est-ce que le suivi de foot était pas
on en parlera après. Hein, ouais, d'accord. Pendant 2 heures, ouais. On peut se faire one-to-one avec Adil, on peut le faire aussi en podcast.
Je peux y aller si tu veux aussi.
Non, tu restes là, évidemment. Ce soir, on parle de Marseille, veille de réception de Lorient et surtout à 20 mois de folie. Olé, tu veux développer un avis, justement. Deux arbitres doivent battre soit le Real, soit le PSG pour justifier son statut. 20h30, Benjamin Pavard, présenté aujourd'hui à Marseille, peut-il devenir le taulier de la défense de l'OM? Tu nous diras aussi ce que tu en penses.
Ouais.
Et de Balerdi aussi, parce que c'est un sujet chaud dans Génération After. On veut ton avis. Pourquoi tu me regardes Adil, je ne peux pas regarder.
Ah, okay. Non.
21h, Adrien Rabiot aussi au programme, qui a débarqué à Milan aujourd'hui. Est-ce que c'est l'environnement idéal pour lui? Puis on parlera de Pogba aussi, dont le retour annoncé aujourd'hui est prévu pour octobre, en ligne de mire le mondial. Et tu nous diras s'il peut le faire. Et puis plein de questions à te poser dans la dernière demi-heure de Génération After avant de passer la main à Gilbert. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous. Vous ne connaissez pas encore la voix de Michael Gerlinger?
Si, on l'a vu en conférence de presse.
Le directeur général de Lyon.
Ouais, parce que très bien, toi, français.
Tout,
il parle très bien.
Il a fait une très bonne conférence.
Il sera avec nous tout à l'heure à 22h, donc une grosse page lyonnaise pour faire le point, notamment sur les finances, tous les sujets qu'Adil
adore.
Il pourra rester, hein.
Voilà. Donc, non, mais c'est intéressant parce que, mine de rien, Lyon réussit un très bon début de saison. Donc, comment ils ont fait? Il a bossé pendant 15 ans au Bayern, hein, cet homme-là. Donc,
au Bayern.
Il a une bonne expérience. Et puis, la Liga qui reprend. Donc, on fera un petit tour des matchs de ce week-end, bien sûr, avec nos correspondants. Plus le foot européen, bien sûr, et notamment un gros plan sur l'Espagne qui a régalé tout le monde pendant la trêve internationale. Mmh. On en parlera tout à l'heure, tous les sujets espagnols et anglais ce soir.
Ce sera à 22h.
À 22h, à tout à l'heure.
Jusqu'à minuit. À tout à l'heure, Gilbert. C'est parti pour Génération After. Vous nous appelez au 3216, bien sûr. Le numéro WhatsApp, vous le connaissez désormais, 0612 424 424. Et puis, en direct également sur la chaîne YouTube de l'After et sur Afterfoot TV, car oui, c'est aussi de la télé, Adil. Tu t'estimes beau gosse ce soir ou pas, ça va?
Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Franchement, je suis fatigué.
Fatigué.
Ouais.
T'as fait du sport aujourd'hui. Alors,
exactement.
L'OM, mois de septembre chargé, Lorient demain, puis ça va s'emballer, le Real à Madrid mardi prochain, le PSG dans 10 jours, Strasbourg et l'Ajax aussi en Ligue des Champions. Tiens, avant l'avis de Walid, écoutons De Zerbi. Il était en conf de presse aujourd'hui, très enthousiaste avant la reprise et surtout avant les débuts à venir des recrues. De Zerbi n'est pas là. Ok, c'est pas grave. C'est bon. Il est là ou pas De Zerbi? Faut me dire, hein. Allez, on y va.
Je m'attends à ce qu'il soit le pavard que l'on connaît de par son expérience, sa personnalité et ses qualités. Il est très enthousiaste à l'idée de venir, cela nous fait très plaisir. Cela nous rend heureux qu'un Français de plus sache ce que représente l'OM. Je suis très excité d'entraîner Benjamin comme toutes les autres recrues. En peu de temps, il va falloir être prêt à bien jouer, à gagner et avoir la bonne mentalité.
Voilà, il parlait de Benjamin Pavard, on en parlera également dans un instant. Il explique qu'il récupère ses nouvelles arrivées, hein, entre 29 août et 1er septembre. On va essayer tout de suite de les mettre sur le terrain. On n'a pas beaucoup de temps, mais ce sont des joueurs qui sont très forts. Heureux de les accueillir dans l'effectif composé. Pavard, Aguerd, Medina, Emerson Palmieri, O'Reilly, Vermeeren, Amat Traoré et Paixão sont dispo pour ce match demain soir. Avid Walid, De Zerbi, doit battre soit le Real, soit le PSG pour justifier son statut. C'est parti, jingle, Walid.
Comment on dit un mensonge en anglais?
Good luck.
C'était un troll, ça.
C'est un troll. Il y a des trolls parfois. Alors.
Ouais, je veux parler de De Zerbi ce soir et je veux parler de ces deux matchs qui attend l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain et contre le Real Madrid avec un déplacement au Bernabeu et une réception du Paris Saint-Germain dans l'idée, bien évidemment, que l'Olympique de Marseille est outsider et par très très loin, surtout au vu de son début de saison catastrophique, que ce soit en termes de résultats et tout ce qui a englobé le club. Mais je voulais parler de De Zerbi et je trouve que De Zerbi, il a beaucoup de choses à jouer sur ces deux rendez-vous parce qu'on en a déjà parlé. Moi, je l'ai souvent défendu sur ce plateau, mais De Zerbi, il manque ce gros match, cette grosse perf contre un gros, ce fameux match où on se dit purée, De Zerbi, il a apporté une vraie patte, son étiquette qu'on avait à Brighton, notamment à à Sassuolo, contre la Juventus, contre Manchester City, contre Liverpool, ne pas se réfugier sur les blocs bas, parce que je pense qu'il n'aura pas de blocs bas sur ces deux matchs-là, contre le Real Madrid et contre le Paris Saint-Germain. Justifier toute la hype qu'il y a eu autour de De Zerbi à son arrivée, le staff, pas les pleins pouvoirs, mais en tout cas des garanties, que ce soit sportives ou financières. Et sur ces matchs-là, pour moi, De Zerbi doit un peu étouffer ce qui s'est passé depuis le début de saison. Si on regarde un peu l'an dernier, alors il fait une deuxième place, c'était ce qu'on lui avait demandé, se retourner en Ligue des Champions, il l'a fait dans les conditions qu'on connaît en fin de saison, avec les Ritiro à Rome, avec des matchs très très compliqués. Mais quand on regarde véritablement les perfs, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette deuxième mi-temps contre Lyon à la maison, mais tu dois gagner face à ce Lyon où je crois que c'est Fonseca qui a un entraînement à l'époque en prenant l'équipe après Pierre Sage. Il bat Monaco à la maison, mais il doit battre Monaco au Vélodrome avec le but de Greenwood. T'as le match aller contre Lyon dans des conditions qu'on connaît, mais contre le PSG à chaque fois à Monaco, tu te dis bon, est-ce que De Zerbi va aller chercher ce gros match avec l'Olympique de Marseille? Et je trouve que c'est le meilleur timing pour véritablement annuler toutes les critiques qu'il y a à son égard. Est-ce qu'il est fait pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est un grand coach? Tous les doutes. Il a besoin de ce type de rendez-vous. Et De Zerbi doit montrer, en faisant un coup, que ce soit contre le Real Madrid ou contre le Paris Saint-Germain, pour véritablement s'affirmer dans tout ce que je viens d'expliquer.
Vas-y.
Non, c'est moi.
Surtout il est hyper exigeant là quand même.
Surtout qu'il y a quand même dans l'effectif, pour moi j'estime que c'est un bon effectif aujourd'hui. Donc aujourd'hui on peut rien reprocher à Mehdi. Quand tu vois les joueurs qui arrivent avec ce nouveau mercato, il y a carrément une nouvelle défense qui se prépare.
Justement Adil, est-ce que c'est pas trop tôt? Moi je suis d'accord sur le côté des résultats, il faut qu'ils battent des gros cette saison, mais là ils viennent de récupérer un effectif, les mecs, même les recrues, entre les blessés qui viennent d'arriver, les recrues, ceux qui étaient en sélection, etc. Il a combien de temps pour préparer le triptyque qui arrive? J'ai enchaîné contre deux machines de guerre, le Real et le PSG. Si tu gagnes pas, c'est pas un flamant là, c'est pas indulgent là. Moi là où je Walid, c'est qu'il doit faire des gros matchs, mais pas tout de suite là sur cette semaine, c'est peut-être un peu tôt.
J'ai laissé Walid terminer, sinon on va dire qu'on l'a coupé.
Après c'est un avis tranché, donc d'habitude
c'est un peu normal.
On peut quand même terminer.
Pour le coup c'est pas un avis.
Tu t'es monté dessus, ça aurait été un vrai problème.
J'ai envie de te dire que c'est pas un avis tranché. Franchement, c'est un avis à peine cisaillé, parce que à part pour une reprise et vouloir remettre les Marseillais dans le bain, parce que demain il y a un match important contre Lorient, que tu me dises qu'il faut absolument battre Lorient, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais alors, comme il vient de dire Jimmy, je vais reprendre ses termes, mais comme dit Adil, pas de souci, il y a des très bonnes recrues, mais les mecs qui viennent de débarquer, ils étaient pour la plupart en sélection, ils vont même pas connaître tous leurs prénoms, que tu veux déjà qu'ils battent des 10 meilleures équipes du monde.
C'est là où t'as pas compris mon avis, c'est que je parle pas de Marseille, c'est pas Marseille qui a besoin de gagner ces deux matchs-là. C'est De Zerbi.
Mais De Zerbi va bien les battre avec des joueurs. Il va bien les battre avec des joueurs qui viennent d'arriver.
Kevin, comprends mon avis, c'est que De Zerbi.
J'ai compris ton avis, je suis pas d'accord.
Non mais par rapport.
Tu dis que De Zerbi n'a pas de match référence en tant qu'entraîneur de l'OM.
C'est un peu c'est Joe Tsonga en grand chelem par exemple, c'est un mec qui va battre moins fort ou des joueurs qui sont à son niveau, mais il y a pas l'énorme perf, ça a déjà arrivé à Tsonga bien évidemment, mais il y a pas cette énorme perf qui met d'accord. Moi je pense que De Zerbi en a besoin.
D'accord, cette semaine il bat le PSG. Derrière, il perd les trois matchs suivants de Ligue 1. Il aura battu le PSG.
Oui, mais sur la légitimité, sur l'étiquette de grand coach, d'un mec qui peut faire passer un cap.
Est-ce que ça suffit de battre le PSG?
Mais la légitimité, c'est pas sur 90
minutes. Moi, je te dis que si tu bats le PSG, par contre, là, je rejoins. Si tu arrives à battre le PSG, tu t'achètes une tranquillité.
Si tu les as connus, tu perds les trois matchs suivants.
Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'enfin, par rapport à ce que Walid dit, c'est vrai que c'est quand même dur, parce que quand t'es De Zerbi, que tu joues le Paris Saint-Germain, qui est quasi imbougeable cette année, c'est l'une des plus belles équipes du monde, et puis d'aller à Bernabéu pour gagner, c'est quand même pas un cadeau pour le coach aussi.
Ça dépend. Si mettre Rudiger, ça passe. Ça peut le faire. Je répète, quand je dis devoir, c'est pas une exigence en disant je vais pas arriver en débrief de match après l'Olympique, après le Real Madrid ou le PSG, en disant De Zerbi c'est très très grave. Je dis juste que pour son bilan, pour sa deuxième saison, je pense que De Zerbi a besoin de ce type de match, parce qu'on s'enferme souvent, notamment en Ligue 1, dans les petits matchs, en disant bon c'est pas le jeu de Zerbi, il tombe face à des blocs bas qui les attendent. Là pour le coup, il faut ce CV, cette carte postale De Zerbi à l'Olympique de Marseille.
Toi, normalement, tu es sur le contenu. Imaginons, puisqu'on est un peu dans le foot fiction. Imaginons, ce que je veux, c'est que l'OM fasse bonne figure. Maintenant, de là à gagner ou pas gagner, au vu des adversaires, au vu du déplacement à Madrid. Non, par contre, si tu me dis que l'OM fait un très gros match à l'énergie contre le PSG et qu'ils vont chercher même un match nul, mais que tu vois, il y a des trucs, il y a une défense solide et qu'ils font, je sais pas moi, un 0-0, un 1 partout, où ils sont pas roulés dessus en 30 minutes, 3-0, et qu'après ils vont au Real, et même s'ils perdent 2-1, mais ils ont été chercher un truc aussi, et que tu vois,
moi là où je rejoins, vous n'avez pas compris mon avis.
Olivier veut une vraie émotion fondatrice.
Moi là où je rejoins, c'est que c'est peut-être pas sur cette semaine, mais je pense qu'il va être attendu, notamment sur la Ligue des Champions. Là où je le rejoins, c'est que c'est vrai que De Zerbi, avec des présumées équipes plus petites comme Brighton, il a réussi à perfer contre des gros en première ligue.
Liverpool,
parce que
City,
c'est des équipes, effectivement, là où je le rejoins, qui attendent pas un bloc bas, etc. Oui, là c'est peut-être tôt pour cette semaine, mais sur le parcours Ligue des Champions, tu vas affronter des équipes qui jouent. Pas comme en Ligue 1 où t'es attendu, bloc bas, etc. Où c'est difficile. Et là, il doit faire ses preuves parce que, comme disait Adil, il a du matériel à disposition.
Contrairement à ce que tu crois, j'ai compris ton avis. Mais moi, je pense que même s'ils battent le PSG, je sais pas moi, ils font un exploit, ils les battent 2-1, peu importe, même 2-0, j'en sais rien. Ou alors ils perdent contre le PSG, mais ils battent le Real. Ça ne va pas changer. Ça va pas changer.
La perception du coach, si.
Je pense pas, en tout cas.
Mais c'est mon avis du soir. Qu'est-ce qui va se passer
en Ligue 1 ? Qu'est-ce qui va se passer en Coupe d'Europe ? Derrière, tu bats le Real et tu perds les 4
matchs. Mais Kevin, encore une fois, j'ai l'impression que tu fais exprès.
Tu l'as dit, de toute façon, ce que tu voulais dire.
Non, mais même au-delà de ça, Nico, c'est que De Zerbi explique que le football, c'est de l'émotion. Que c'est un entraîneur qui doit apporter ça. Et c'est dans ces soirées-là, tu vois, ce que Tudor avait apporté lors du match de Coupe de France contre le PSG.
Il est plein pour un match de préparation.
Oui, mais ils ont besoin d'être transportés.
Il faut un match fondateur.
J'ai compris, Kevin.
Il devrait pas être d'accord avec toi.
Mais il a le droit. Là, je trouve qu'il fait exprès pour faire exprès.
Pas du tout. Je fais pas du tout exprès. Je te dis que pour moi, c'est pas une victoire contre l'un ou l'autre qui va changer quoi que ce soit. C'est clair quand même.
Ça va pas lui faire du bien. Ça va pas. Encore une fois.
Lai est avec nous, 32-16. Salut, Lai.
Salut,
supporter de l'OM.
Ça va, vous allez bien.
Bienvenue dans Génération After. Adil Rami est là, il t'écoute.
J'avais oublié qu'on pouvait écouter les auditeurs.
C'est la force.
Ça, c'est méchant.
Ouais. C'est bien, ça aussi. D'ailleurs, c'est une question après à poser à Adil, tu pourras le faire là. Alors, ton regard sur le débat, est-ce que tu comprends Walid qui, lui, attend enfin un gros match référence, fondateur en termes de jeu d'émotion et d'adversité, surtout de Zerbi?
Walid, je t'aime beaucoup, mais là, je peux pas te rejoindre. Le fait que je pense que cet entraîneur a besoin d'un gros match pour que même les supporters le valident, ça je pense que tu es d'accord. Mais demander ça contre le Real et contre le Paris Saint-Germain alors que t'as 90 joueurs qui viennent d'arriver, je pense qu'on peut le faire, mais tu peux pas le demander toi. C'est pas possible de demander ça. Contre le Real et contre Paris, demander une victoire à tout prix, je pense que c'est quand même trop...
C'est pas à tout prix. Moi, je l'appelle pour De Zerbi. De Zerbi a besoin de ça. Je dis pas que si De Zerbi perd contre le PSG, contre le Real Madrid, qu'il doit se faire virer. C'est pas ce que je dis là, ce soir.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu peux pas le demander contre le Real et contre Paris.
Un Paris qui sera sans Ousmane Dembélé, sans Désiré Doué. Après un match de Ligue des Champions contre l'Atalanta.
Il y a des internationaux devant. De
Zerbi est venu pour ça. De Zerbi est venu pour la Ligue des Champions, pour les gros matchs.
Et pour chatouiller le PSG, ce qu'il avait dit également.
Il doit donner ce type de soirée.
Je suis d'accord, Walid. Mais tu peux demander qu'il fasse un gros match contre le Real et contre Paris. Pas être ridicule sur ça, je suis d'accord. Mais demander qu'il sorte un gros match et gagner alors qu'il a des joueurs qui viennent d'arriver, une défense qu'il doit reconstruire, je pense qu'il est quand même beaucoup trop tôt pour demander ça. Après, d'ici, on va dire, 2-3 semaines, oui. Là, je suis d'accord avec toi. Quand tous les joueurs vont être intégrés, oui. Mais là, tout de suite, lui demander ça, c'est quand même avoir trop d'ambition, on va dire.
Ouais, tu entends ça quand même. L'aïe, je demandais à Adil aussi ce qu'il pense qu'on parle de Zerbi, ce qu'il fait depuis maintenant quasiment plus d'une saison. Ton regard, tu prends du plaisir à avoir joué l'OM de Zerbi ou tu attends plus de...
L'année dernière, j'ai beaucoup aimé, surtout que je les voyais vraiment offensifs. Il y avait beaucoup de monde à la surface de réparation adverse. Il y avait une sorte de dynamique. Mais cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes tactiques. On parle souvent de la défense, mais je les trouve loin du porteur du ballon. Je les trouve, comme tout le monde, on a regardé aussi la série sur YouTube, donc on voit un petit peu le comportement et la communication qu'il y a entre l'entraîneur et ses joueurs, que pour moi, en tout cas, je trouve parfois un peu trop dur. Et en étant joueur, je suis passé par là. À tout moment, on peut péter les plombs.
C'est-à-dire lui, il est trop.
Je trouve parfois un peu dur. Je trouve un peu dur parfois. Limite, parce qu'à un moment donné, on est aussi des pères de famille. Ouais. Et parfois, ça ne peut ne pas passer en termes de communication. Et après, quand on dit qu'on a des nouvelles recrues cette année, enfin là, qui viennent d'arriver, d'ailleurs, elles sont arrivées assez tardivement. Ouais. C'est dommage aussi. Mais là, on parle des joueurs comme Aguerre, Pavard, Medina. Ce sont des joueurs quand même qui ont prouvé, qui ont de l'expérience. Et pour gérer une défense, pour contrôler une défense, il ne faut pas non plus un mois. Surtout avec ce type de joueurs.
Il n'y a pas de question de complicité.
Il y a de la complicité, mais c'est au coach et au staff de vraiment faire parler de leur football et de faire passer le message avec des couvertures, de coulisser beaucoup plus rapidement, et aussi le travail des numéros 6 qui est super important. Mais sur les matchs que j'ai vus depuis le début de saison, il y a quand même beaucoup de problèmes. Pas que sur la défense,
globalement,
en général. Ouais.
Est-ce que toi, dans tes débuts de saison, dans les clubs où tu as évolué, quand tu fais des débuts de saison contre des équipes inférieures, où l'Olympique de Marseille doit gagner, ouais, avoir ce type de match où t'es pas favori, aller au Bernabéu, aller à Anfield, est-ce que c'est une bonne chose pour essayer d'aller créer, pas cet exploit, mais en tout cas cette grosse performance, où tu te dis, vu que on a perdu contre des petites équipes, ça va être l'enfer?
Non, moi, en début de saison, pour être honnête avec toi, quand t'es dans un grand club et que tu joues contre des clubs inférieurs, en début de saison, c'est compliqué. Parce que tu joues contre des équipes super méga motivées. Mmh. Ils sont motivés, t'es en préparation, t'es pas à 100%. Et ça y joue aussi au niveau du mental pour les joueurs. Moi, à l'Olympique de Marseille, on sait très bien que tout le monde veut taper l'Olympique de Marseille, on va pas se mentir. Et en début de saison, c'est la meilleure période. Tu regardes très souvent Marseille perd en début de saison. Et c'est vrai que le déclic peut arriver sur un gros match. Là, Marseille, peut-être qu'ils vont redoubler d'efforts, de concentration, ils vont peut-être se surmotiver. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont approuvé. Et on a l'impression qu'il y a
revanchard, un balai
et des joueurs aussi qui ont leur place à gagner. Et ça, c'est important dans un groupe d'avoir de la concurrence, mais de la bonne concurrence. Et ça, c'est très important d'avoir de la concurrence saine.
Là, tu voulais rajouter quelque chose?
Bon, non. Là,
pour revenir sur le débat, c'est sûr que si tu gagnes contre le Real ou Paris Saint-Germain, tu vas ramener tous les joueurs vont être avec toi, et même les supporters qui commencent à douter sur l'entraîneur. Mais même pour moi, c'est dur. Hein. De douter sur lui. Oui, bien sûr que l'année dernière, il a tout pas bien fait. Mais sur l'implication et dans le jeu, par moment, comme lui, il l'a dit, par moment, c'était bon, par moment, c'était très compliqué. Mais le problème, c'est quand tu changes à chaque fois 90 000 joueurs, mais on peut pas s'attendre à ce que l'entraîneur.
Et là, il dit encore aujourd'hui, il est totalement satisfait de l'effectif qu'il a. Il a la recrue qu'il voulait, c'est un régal.
Là, je te pose une question.
Maintenant, il n'aura plus d'excuses, effectivement.
Là, je te pose une question. Rassure-moi, s'il bat le Real Madrid au Bernabéu ou qu'il bat le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, à la maison, il change quand même de dimension et d'image à l'Olympique de Marseille ou pas?
Mais bien sûr.
D'accord,
bien sûr,
ok.
Totalement.
Non, mais je voulais.
Oui, mais ce serait pas un peu court de dire qu'il a battu le PSG, il change de dimension alors que. S'il finit 6ème de Ligue 1, tu diras c'est bon,
mais il est dans le PSG. On parle
de la date, les gars. Il vient de finir 2ème de Ligue 1.
Non, mais ce que dit Walid, en fait, c'est que si tu gagnes le Real ou le Paris Saint-Germain, bien sûr que oui. En plus, surtout à Marseille. Les Marseillais, l'amour qu'ils vont lui apporter. Après, bien évidemment, Walid, il n'est pas en train de dire que derrière, il ne va pas bonifier ou confirmer d'autres victoires.
Toujours prouvé à Marseille.
Après,
c'est très bien.
Après, il faut continuer.
Bien évidemment que s'il bat le Real et qu'il termine 8ème, bien évidemment que
ce
sentiment sera diminué. Mais j'ai quand même dans l'esprit qu'un deuxième.
Ça va changer quoi?
Ça va changer quoi,
Le PSG ou le Real Madrid?
Ça va changer quoi? C'est-à-dire que pour moi, il va asseoir, comment dire, son autorité, sa compétence autour du club, dans son effectif, les messages qu'il va pouvoir passer. J'ai dans l'esprit, Kevin, que si tu vas le Real Madrid, que les trois matchs suivants, déjà, j'ai pas vu l'Olympique de Marseille perdre trois matchs de suite en Ligue 1 depuis qu'il est arrivé.
Un match de Ligue 1, deux matchs de Ligue des Champions, par exemple.
D'accord, mais je te dis juste qu'aujourd'hui, moi, dans mon esprit, gagner contre le Real Madrid ou gagner contre le Paris Saint-Germain, tu capitalises dessus. Toi, tu veux rester dessus depuis tout à l'heure, en mode bête et méchant sur cette phrase. Si tu gagnes.
Un peu de politesse quand même.
Hein?
Vas-y.
En mode un peu bête et méchant, en gros, cet aspect, les trois matchs, si tu les perds derrière, ça vaut rien. Moi, je te dis que ce Big Bang Foot,
te permet derrière d'asseoir ton charisme, ton autorité, ton rôle de coach.
Ce n'est pas être bête et méchant de ne pas être d'accord.
Non, c'est pas. Tu peux ne pas être d'accord, Kevin, mais tu restes sur cet argument.
Ah, je reste sur cet argument que pour moi, ça changera pas grand-chose au début de saison.
Et sur un argument spéculatif en plus.
Ah bah c'est toi qui es spéculatif.
Bah non.
Tu dis que ça va changer, mais t'as aucune preuve que ça va changer.
Dans mon esprit et dans l'esprit des gens, je pense que même médiatiquement, tu regarderas si De Zerbi gagne contre le PSG ou contre le Real Madrid, tu verras les émissions qu'on fera derrière. Et est-ce qu'on dira ?
Si ce vôtre sur les deux journées d'après, on sera critique aussi.
Après le PSG, après le Real Madrid, s'il bat un des deux, qu'est-ce qu'on dira, Nico ? Je vais attendre ton conducteur.
On va attendre de la continuité en Ligue 1 et en Ligue des Champions.
Je vais attendre ton conducteur avec impatience.
Très bien, avec plaisir. Tu seras là, évidemment, comme tu es là tous les soirs, face à Kevin en plus.
On va s'en rappeler.
Ça va, Adil ?
Il y a de la patate ici.
Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais.
Moi, j'arrive pas.
Ah, c'est pas Ligue 1 plus.
En tant que Marseillais, je me dis qu'il vaut mieux déjà qu'il passe Lorient.
Pour déjà un peu tomber
tout ce qu'il y a autour. Pour moi, Lorient, c'est même plus important que le PSG.
J'imagine pas l'OM perdre contre Lorient.
Lorient, c'est plus important que le PSG.
Là, j'ai plein de messages.
Personne ne pardonnera aux Marseillais de ne pas battre Lorient. Par contre, tous les Marseillais perdonneront. Que ce soit bon an, mal an, les Marseillais pardonneront, peut-être c'est pas bien, peut-être
deux défaites contre le Real et le PSG.
Mais ils vont pardonner ça.
Très intéressant, Kevin. Mais c'est un avis différent. Mais oui, tu as raison là-dessus. Mais pour moi, c'est pas antinomique.
Bon, en tout cas, les supporters marseillais qui nous écrivent dans le chat là et sur WhatsApp nous disent effectivement qu'ils attendent enfin de voir un gros match de l'OM sous De Zerbi. Pour l'instant, ils restent vraiment sur une frustration et sur leur fin.
Il y en a eu quelques-uns quand même.
Merci Lyle, on a fait le 32-16. À très vite sur RMC. Dans un instant, on parle. Je crois que c'est un peu ton pote, Benjamin Pavard. Hein.
Ah oui, carrément. Ah,
c'est la famille. Là.
Ah ouais.
On en parle dans un instant. Peut-il devenir le taulier de l'OM? En tout cas, en défense surtout.
Allez Pavard,
s'il nous écoute. Reste avec nous. La suite dans un instant.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, Walid Acharchour, Kevin Diaz et notre invité, champion du monde 2018 et pas que, champion de France aussi avec Lille, finaliste de la Ligue Europa. Oui. Adil Rami est avec nous.
Merci de me rappeler ce que j'ai oublié.
T'as oublié quoi ?
Non, je rigole. Enfin, j'ai rien d'oublié.
Prof, finaliste de Ligue Europa.
Il l'a gagné aussi. Finaliste avec l'OM, tu l'as gagné.
Et toutes les finales, elles ont été prises par Ronaldo et Messi. Les finales de Super Coupe des Coupes, finale de Coupe du Roi, tout ça, ils m'ont tout arraché.
Ah, hormis celle de contre l'Atlético.
C'est pas Ronaldo. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et après le Portugal pour l'Euro 2020.
Très vite que c'était très compliqué.
Ah non, pardon, prolongation à chaque fois.
Mais contre l'Atlético, tu dis l'Atlético très rapidement
avec Marseille.
Très rapidement, tu savais que ça allait être compliqué cette finale.
Non, j'y ai cru. Sincèrement, je me suis dit qu'on pouvait créer la surprise en quelque sorte. Et je savais que contre l'Atlético de Madrid, je vous promets. J'ai eu la chance de jouer contre eux, j'ai eu la chance d'avoir Unai Emery. Et je me souviens, on était parti jouer là-bas. Et il avait changé complètement sa manière de jouer contre eux. Et il avait dit, on ne va pas jouer au foot. On va faire que des chandelles. On va le deuxième ballon. Et on va éviter de jouer au foot contre eux. Parce que c'était une équipe qui se nourrit des erreurs.
Oui, bien sûr.
Sur des relances ou autres. Et c'est exactement ce que je me suis dit à l'Olympique de Marseille. Je m'étais dit, j'avais parlé un petit peu à l'équipe. Et j'avais dit, ouais, les gars, on s'en fout d'être moche. Le plus important, c'est la victoire. Et au final, on a essayé de relancer. Et puis ça fait but. Et après derrière, pour revenir au score avec une équipe aussi talentueuse, quand même, on va pas se mentir.
Ils ont plus écouté Rudy Garcia que toi en fait, quoi.
Ouais, c'est normal, c'est logique. C'est logique.
Benjamin Pavard est donc marseillais, ça on le sait depuis plusieurs jours déjà. Il est arrivé à Marseille hier, il est en conférence de presse aujourd'hui. Alors, vous avez vu l'image hein, qui fait un peu le tour des réseaux.
Il a serré la main tout le monde.
Des 25-30 journalistes, il a pris le temps avec un grand sourire. Alors, tout le monde a apprécié évidemment. C'est un malin ou il est bien élevé ?
Non,
les deux.
Ah, c'est pas du tout un malin, c'est quelqu'un de très sain, de très honnête. C'est une belle personne, Pavard. Très très belle personne, il arrive au bon moment, je pense. L'Olympique de Marseille a besoin, comme je l'ai toujours dit, de leader. Ça fait des années que Marseille n'a pas eu de leader.
Mais c'est un leader, Benjamin Pavard, en termes de personnalité, c'est ça que je...
Alors quand je parle de leader, quand je dis on a besoin d'un leader...
Sur le terrain.
Alors ça peut être un leader, parce qu'il y a différents leaders. Mais moi je fais aussi allusion à Guerre, à Medina, qui a l'air d'être un leader. C'était aussi un leader du côté de Lens. Mais si on parle de Pavard, c'est un vrai gentil, mais dans le jeu très intelligent.
Bon, donc il va apporter pour toi sur le terrain parce qu'il a raison Nico, c'est un joueur de très très bonne équipe avec l'équipe de France en 2018, avec le Bayern Munich où il gagne la Ligue des Champions, avec l'Inter où il fait finale, joueur très intéressant, je sais pas
très
dire,
intéressant
joueur...
et sous-côté je trouve.
Exactement oui,
parce que
joueur,
dur, hein.
joueur très intelligent, polyvalent, qui est capable d'incarner plusieurs systèmes, mais est-ce que c'est véritablement le leader de défense? Moi j'ai pas envie de le catégoriser
leader,
là-dessus.
C'est un leader qu'on appelle, Adil en parlait des différents types de leaders, lui c'est plus un leader par l'exemple. c'est pas quelqu'un qui va forcément qui va forcément beaucoup parler, mais tu le vois arriver, c'est aussi un leader quand il moi j'ai trouvé ça super ce qu'il fait avec les journalistes. Bien sûr, il y a peut-être un peu de communication, il y a peut-être un
c'est
peu
atypique
de,
mais c'est bien
mais c'est bien de voir ça, tu serres la main à tout le monde, c'est un mec la presse n'a pas toujours nous n'avons pas toujours été tendres avec lui, mais c'est un gars qui a toujours qui s'est toujours remis dans sa bulle, tu vois, il est c'est un mec qui travaille comme Adil, moi j'ai énormément de respect pour ce genre de joueurs qui ont pris beaucoup sur le dos, mais qui se sont imposés partout où ils sont passés. Alors oui, c'est peut-être pas un arrière droit comme il a été en équipe de France critiqué, mais Koundé aussi il a été, puis finalement s'est imposé, mais c'est un mec qui est polyvalent. On parlait hier avec Gaël Clichy des joueurs qui sont aujourd'hui très polyvalents, qui peuvent jouer à différents postes aujourd'hui dans le football moderne, avec des objectifs qui sont très importants, avec un nombre de matchs important, mais avec des finances qui sont un peu difficiles. Bah, il faut pouvoir jouer à plusieurs postes. Lui, il peut jouer dans une défense à 4, à droite, dans l'axe, dans une défense à 3.
Comment mieux l'utiliser à Marseille ?
Moi, je trouve que c'est une excellente recrue pour l'Olympique de Marseille, parce que c'est un gars qui, aujourd'hui, est un grand professionnel dans la mentalité. C'est peut-être pas le meilleur joueur techniquement, mais c'est un mec qui, au niveau de la mentalité, il est
grand père. Sa connaissance du très haut niveau. Mais moi, c'est le packaging Aguerd-Pavard qui m'intéresse encore plus, dans ce rôle de défenseur, mais aussi leader qui va apporter à cette équipe.
Et Medina, dont parlait Adil aussi. Bien sûr, Medina, il a ce truc-là aussi.
Écoutons-le quand même, Madame Pavard. C'était en conférence. On va parler de Ballardy, t'inquiète pas, on y vient. T'es pressé, je sais. T'es impatient.
Moi, je veux l'avis d'Adil.
Par contre, les gars, on va mettre une règle. Si on parle de Ballardy.
Non, moi, calmez, hein. Je n'ai rien à dire sur Ballardy. Je veux juste l'avis d'Adil. Défenseur central droit. Voilà, je veux savoir.
Sois pas si sûr de toi.
Quand je dis vous calmez, c'est tu vous vois, Kevin?
Non, tous les deux, les gars.
D'accord.
Parce qu'il y a trois sujets avec vous, d'accord? Il y a effectivement Ballardy, il y a Cherki. Et le troisième, je sais plus où c'est Deschamps. Non,
le troisième, c'est le football.
Tu disais sous-côté à l'instant. Pourquoi tu dis qu'il est sous-côté?
Parce que quand parfois, j'ai l'impression que quand des joueurs partent à l'étranger, surtout les internationaux, on n'en parle pas assez en France et on a l'impression que ça dort à l'étranger. Alors que quand il va dans des grands clubs, comme Pavard va dans des grands clubs, il a joué dans des très grands clubs, les plus grands clubs du monde, et d'être titulaire dans ces clubs-là. Ben, il mérite qu'on en parle un peu plus en France. Et souvent, les Français, ben, on se dit, bon, ben, on n'en parle pas, donc il est moyen. C'est l'impression que j'ai.
Alors que c'est. Parce qu'on se réfère que à ce qu'il fait en équipe de France, alors que tu vois pas ses matchs en club toutes les semaines.
Exactement. Donc c'est un peu dommage, mais c'est quand même quelqu'un de.
Et palmarès, c'est énorme.
Titulaire au Bayern, joueur avec un palmarès titulaire énorme. Il sera évidemment
là,
titulaire.
Le Bayern, l'Inter, là, tu peux pas tester.
C'est
la Ligue des Champions en plus. Ouais. Donc, non. Et puis même quand tu joues à l'Inter et que tu joues au Bayern, je voulais vous le dire, hein, parce qu'on a l'impression qu'on arrive dans un club. Certains pensent que ouais, t'arrives à Marseille, c'est en dessous le Bayern, à l'Inter, surtout en termes d'équipe, hein, parce que le club de l'Olympique de Marseille, on se doit de le respecter, on va pas se mentir. Mais peu importe les clubs où t'as été, quand tu viens à Marseille, c'est toujours différent. C'est une pression supplémentaire. Et j'ose imaginer. Alors je l'ai pas eu au téléphone, hein, j'ai pas la confirmation, mais qui doit avoir une sacrée pression.
Ah ouais.
Ah bah, Marseille, c'est quelque chose. Hein.
Toi, tu l'as senti, toi?
Ah ouais. Ah ouais. Tu es à l'étranger, ça marchait très très bien pour moi où j'étais. J'étais à Séville, on était qualifié pour la Ligue des Champions. Marseille, j'ai choisi Marseille parce que non seulement je voulais être vu pour la Coupe du Monde, j'ai fait bon pari. En même temps, ben, je suis du sud, donc j'aime ce club aussi. C'est le rêve de tout sudiste de jouer à l'Olympique de Marseille, on va pas se mentir.
T'es varois, toi, je précise.
Exactement, je suis de Fréjus plus précisément. Et quand t'arrives à Marseille, t'arrives quand même avec un bagage. T'es joueur de l'équipe de France, t'as prouvé à l'étranger. Maintenant, dans le football, on oublie tout. Très vite. Il faut toujours prouver constamment et encore plus à Marseille.
Ce que disait Samir Nasri dans son documentaire, hein, il a connu bien sûr l'Angleterre, City, ouais. Arsenal. Il dit, pour moi, il y a Marseille, c'est au-dessus de tout en termes de pression. Ah, il y a peut-être Naples également. Il voyait ça comme les deux clubs. Ah,
c'est pour ça que Maradona, il a hésité entre les deux clubs.
Tiens, écoutons-le quand même, Benjamin Pavard, ses premiers mots en conférence de presse. Il est hyper heureux d'être à l'OM.
Mes agents sont en contact avec Mehdi depuis un certain temps. Après, ça s'est fait lors du dernier jour de Mercato. Mais quand j'ai su l'intérêt de l'Olympique de Marseille, dans ma tête, c'était clair et net. Je voulais rejoindre ce projet ambitieux. Aussi jouer au Vélodrome. J'ai déjà joué une fois avec Lille. Jouer les guichets fermés, jouer avec des champions, avec Marseille, avec ce public, cette ferveur qu'il y a. Je pense qu'en tant que footballeur, c'est des émotions à vivre. Sincèrement, j'ai très envie et j'ai hâte de célébrer des victoires. Et j'espère dès vendredi.
Voilà, Benjamin Pavard. Vous écoutez RMC Génération After, 20h38. Alors la question, vous avez commencé à l'évoquer, c'est comment l'intégrer dans cette défense marseillaise. Alors De Zerbi a été interrogé, défense à 3 ou défense à 4 cette saison. Il a dit peu importe, je peux faire des choses différentes. Pour moi, c'est encore une fois l'animation qui va compter. Titulaire indiscutable, Pavard évidemment aujourd'hui, dans une défense à 3. Partons de ce principe-là pour l'instant.
Une défense à 3 ou défense à 4, pour moi, il est titulaire indiscutable.
Dans les deux cas. Ouais. Tu le mets où dans une défense à 3, par exemple?
Dans une défense à 3.
Et tu l'entoures de qui?
Stopper droit avec... avec Balerdi et Aguerd ou Medina. Et après, derrière, dans une défense à 4, moi, je l'ai déjà dit, mais je pense dans les gros matchs, notamment dans la semaine que j'attends de De Zerbi, je pense qu'il jouera façon Pep Guardiola ou Arteta avec les 4 centraux. C'est-à-dire Medina à gauche, Pavard à droite et Balerdi Aguerd dans une défense à 4.
Adil.
Ah ouais, complètement comme une grosse défense pour avoir un gros bloc défensif.
Ouais, contre le PSG ou contre le Real Madrid, je le vois comme ça.
Parce que moi, je pense que contre le Paris Saint-Germain, il y a deux types d'équipes qui affrontent le Paris Saint-Germain. T'as le bus qu'on connaît tous, et après t'as l'équipe comme Toulouse qui essaye et qui se dit de toute façon on va perdre, autant essayer. Moi je pense que contre le Paris Saint-Germain il faut essayer, et encore plus pour Marseille qui pour moi ont quand même des sacrées cartouches. Alors peut-être pas encore à 100% aujourd'hui, mais je pense que le Paris Saint-Germain, c'est là où ils sont friables, c'est sur les contres. Sur les contres, on peut aller très vite, on peut faire mal, on a des joueurs quand même assez techniques pour pouvoir découpiller la défense du Paris Saint-Germain, même si c'est très difficile, hein, je le dis, je le répète, pour moi, il est l'une des meilleures équipes du monde actuelle, tactiquement aussi. Mais de mettre 4 comme ça, 4 centraux, je pense que dans la construction, ça va être compliqué. Comment?
Tu penses que ça te condamne si tu joues? Tu peux pas jouer les coups si t'as ces 4 centraux-là contre Paris?
Bah moi, j'estime aujourd'hui, dans le football actuel, je pense que c'est assez important d'avoir des latéraux très offensifs. Ouais. Et c'est eux qui arrivent à créer aussi le surnombre et faire des différences.
Mais il y a de plus en plus de coachs qui le font plus, ça. T'as Arsenal qui mettait Ben White notamment sur le côté, ou Timber sur le côté, ou Calafiori même sur le côté, qui était défenseur central avec l'Italie. City, ou Guardiola, même Ake jouait latéral gauche.
Moi, Stones à droite.
Il m'a impressionné, j'avoue que. Mais là, tu parles de qui à droite si tu fais une défense à 4?
Pour moi, Pavard latéral droit.
Ouais.
Medina latéral gauche.
Oui, après.
Tu crois que Pavard est venu à Marseille pour jouer latéral droit?
Après, c'est pas des vrais, excusez-moi.
Après, comme il dit, pour aller avec toi, Walid, là, on est sur une configuration où, quand même, c'est pas des vrais centraux à droite ni à gauche. Donc, je pense que Medina est capable de faire la différence sur le côté. Offensivement, il en est capable. Et Pavard, pareil.
Après,
l'agence touriste, c'est quelqu'un qui ne va pas faire de boulettes, qui est concentré, qui est propre, qui va respecter les demandes du coach, et ça c'est bien.
T'es champion du monde en 2018 avec 4 centraux aussi. Hein.
Ouais,
même si Lucas Hernandez est un latéral très offensif aussi,
ça peut être une solution.
C'est aussi un piston. Ouais.
Ça peut être une solution de jouer avec cette défense qui a 4 centraux pour deux raisons. La première, c'est que on a quand même des ailiers qui ont quand même du mal à faire les efforts, notamment Greenwood, qui est clairement, franchement, ahurissant de nonchalance, notamment dans les matchs comme à Lyon où son équipe elle est en difficulté à 10 contre 11. T'as l'impression que le mec il est pas au courant qu'ils sont à 10 contre 11. Donc moi je l'aime bien Greenwood, mais il y a un moment faut se mettre la tête à l'endroit.
C'est mon joueur préféré de l'Olympique de Marseille.
Non mais je suis d'accord, mais nous aussi on l'aime beaucoup, mais bon il y a un moment moi j'ai
mais t'agace pas parfois justement Greenwood,
des joueurs qui jouent avec et sans le ballon quand même.
Ouais, moi je sais qu'il y a un minimum à faire, surtout sur le placement, pour dissuader. Parfois ça dissuade le placement,
ça,
c'est super important. Mais ce type de joueur, même quand il a... Souvent les Marseillais, je regarde les commentaires, je vois un petit peu comme tout le monde, ils sont pleins de Greenwood contre Rennes par exemple. Moi je trouvais que c'était le seul joueur qui a essayé de dynamiser, de mettre
mi-temps,
mouvement, voilà, en première mi-temps. Il essaye. Quand t'as un joueur comme ça offensif qui essaye, même s'il perd la balle, c'est aux défenseurs et aux 6 qui sont là pour justement.
Mais c'est Greenwood en fait, c'est différent.
C'était différent. Après il y a eu ce carton rouge aussi qui crée une certaine différence. Mais j'aime bien les joueurs qui essayent.
Les 30 premières minutes qui fait, c'est une honte, parce qu'en fait le gros problème de Greenwood, c'est que ça, c'est la solution et le problème en même temps à l'Olympique de Marseille.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait c'est la solution, parce que comme tu l'as dit sur la première mi-temps contre Rennes, dès que tu lui donnes le ballon, il y a même une surresponsabilité sur Greenwood et sur le fait de faire la différence.
Il a manqué d'animation autour de lui.
Et c'est en même temps le problème, parce que quand le niveau s'élève, et on l'a vu contre le PSG l'année dernière ou dans d'autres gros matchs, De Zerbi est obligé de faire un système de jeu pour essayer de le recentrer, parce que défensivement, sans le ballon, c'est une catastrophe. Moi, j'ai eu des échos dans le staff lyonnais sur le match où ils ont isolé, ils ont dit à Abner.
Mais même Maciel chez vous sur Ligue 1 Plus, il le dit à la fin du match, il dit on savait que Greenwood
ne défendait
pas.
Je l'avais pas vu. Mais des dédoublements, parce que en gros Greenwood ne suit pas son joueur. Mais ça c'est quand même problématique.
Donc ça c'était le premier problème, et le deuxième problème pour moi, c'est que aujourd'hui la défense à 4 comme vous l'avez présenté, pour moi c'est juste pour trouver une place à Balerdi.
Alors pause dans un instant,
pour moi, c'est pour lui trouver une place, parce que sinon je finis juste, pour moi la meilleure défense de l'OM c'est à 3, Pavard jouait à 3 à l'Inter. Aguerd n'a plus ses jambes de 20 ans. Medina jouait à 3 avec Lens. Donc pour moi, c'est cette défense à 3.
Stop. Pause.
Moi, c'est cette défense.
On revient dans un instant. Avec Adil Rami, qui est notre invité exceptionnel. Ce soir, on nous demande s'il travaille chez nous. Pas encore, un jour peut-être, Adil. Il a déjà bossé chez nous quelques années avec Jérôme Rotten, notamment. Jimmy Brunella, Walid Acharchour, Kevin Diaz et Adil, tu restes avec nous jusqu'à 22h. Ça va la soirée pour l'instant?
Franchement, ouais.
Prends du plaisir.
Et je vais vous dire la vérité. Je comprends que votre émission soit regardée. Il y a une belle ambiance, une belle énergie.
Elle est de plus en plus écoutée. À la suite dans un instant, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Adil Rami est avec nous sur RMC. On est heureux de l'accueillir ce soir jusqu'à 22h avec Walid Acharchour, Kevin Diaz et Jimmy Brown. Tiens, avant qu'on parle de Ballardi, c'est intéressant. L'échange qu'on avait pendant la pause avec toi, Adil. Tu préférais jouer dans une défense à 3, à 5 ou à 4-4-2 plus classique, toi?
Bon, j'aimais pas changer pendant la saison.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a une grosse adaptation, c'est une grosse différence. Mais je préférais au final. Avec l'âge, à 5.
C'est ça.
Et être au milieu des 3 centraux.
Où est-ce que tu as pris le plus de plaisir dans une défense à 3, justement?
À Séville.
Tu avais qui autour de toi?
À Séville. Oh, j'en ai eu beaucoup des joueurs autour de moi, mais je me souviens d'une saison où on avait.
L'année de Sampaoli?
Toi, tu connais mieux que moi les joueurs qu'il y avait autour de moi. L'année de Sampaoli, ouais.
Il y avait Mercado. Il y avait.
Argentin très, très rugueux.
Au début, il y avait Parreira.
Ouais, mais il a pas beaucoup joué.
Il y avait Kolodziejczak un petit peu.
Exactement.
Il y avait Carrizo, mais il était blessé aussi.
Mais
j'ai pas le troisième.
C'était titulaire Carrizo, vraiment. C'était vraiment lui le titulaire. Et une fois, je vous raconte une histoire, c'est que en Espagne, on jouait avec une défense à 3. Moi, je dis des défenses à 5, mais en fait, défense à 3, parce qu'à gauche, on mettait Vitolo, et à droite, c'était Sarabia.
Qui sont deux ailiers offensifs,
ouais, c'était très offensif.
Même contre les gros de la Liga.
Ouais. Contre les gros de la Liga, c'était sur les côtés qu'on pouvait passer parce qu'ils avaient des joueurs très offensifs. À l'époque, il y avait Marcelo exceptionnel offensivement, mais il fallait qu'ils reviennent les mecs. Les mecs, c'était pas des défenseurs, c'était pas des latéraux, hein, c'était des ailiers en fait.
Il y avait le match contre le Barça notamment à Sanchez-Pizjuan où vous avez joué comme ça.
On a joué comme ça, mais ça faisait flipper. Je me rappelle Sampaoli, il me regarde, il me dit toi tu vas prendre Suarez, donc je sais qu'au corps à corps tu vas pouvoir le tenir. Après, il disait à Mercado toi tu prends Messi, tu le connais, Argentin. Mais Messi, ce qu'il avait fait en deuxième mi-temps, c'était très très intelligent. Enfin, Messi, on parle de meilleur joueur de tous les temps. À un moment donné, on faisait du 1 contre 1. Et à droite, je ne sais plus c'était qui avec moi et qui devait s'occuper de Neymar. Et à la fin, ils avaient compris à la mi-temps. Et Messi, il venait récupérer les ballons super bas.
Oui, c'est ça.
Ça fait que Mercado, il devait aller chercher Messi. Puis au final, il y avait des espaces de dingue.
Tu te rappelles du score ou pas?
Non, on a perdu 2-1, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Honnête.
Et vous meniez 1-0.
C'est propre, on menait 1-0, ouais. On menait 1-0. Je crois que l'année où il y avait Samir en plus.
Ouais, c'est ça.
Et les premiers 6 mois, c'était incroyable. Samir, leader, incroyable.
On a peu parlé de Séville avec Samir d'ailleurs.
Ouais.
Il reviendra. Alors Léo Ballardi.
Ils reviendront tous.
Léo Ballardi. Bah oui, à chaque fois ils viennent, ils partent, c'est génial.
Ils reviendront tous.
Ah, c'est pas mal. J'aime bien.
Bon, Léo Ballardi, question très simple, qu'est-ce que t'en penses?
J'en ai pas.
Bon défenseur, très bon défenseur, défenseur moyen.
Non, je pense que c'est un bon défenseur. Et mon point de vue, c'est que on lui a donné beaucoup de crédit, une image de leader, de capitaine, de patron de la défense de l'Olympique de Marseille. Et moi, je le dis, je le répète, et en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un patron dans cette équipe marseillaise, en défense centrale en tout cas. Oui. Un patron, c'est quoi? Un patron, c'est pas un défenseur qui vient faire simplement un bon match. On dit, ouais, il a été bon sur l'homme, il a fait son match. Non, un patron, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il va réguler sa défense, qu'il va scanner, voir si son latéral droit a bien serré dans son dos, si le ballon il est à gauche. Dire à son binôme, pendant le match, hein, je sais pas s'il le dit par contre, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication. Dire à son binôme, vas-y, va au duel, je te couvre, j'ai ta couverture. Ça fait du bien à ton binôme. Croyez-moi, quand t'es en défense centrale et que tu vas à la tête ou que tu vas au duel, ou même quand tu sais que t'as ton défenseur qui te couvre, tu peux même te permettre de tenter de passer devant ton attaquant. Pour moi, c'est ça un leader. Un leader, c'est qu'il va crier sur ses numéros 6 pour se replier. Quand il y a un contre, il va crier sur ses attaquants pour qu'ils puissent se replier.
Et alors, c'est un leader ou pas Ballardi?
Et moi, j'estime, sur ce que je vois, que c'est pas du tout un leader. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas un leader à l'Olympique de Marseille. Un leader, c'est quand, par exemple, tu joues contre Rennes et que Rennes, c'est une équipe qui est à 10 contre 11. Tu vas jouer haut. Tu presses. Tu ne dois pas être spectateur mais acteur, et prendre le temps à ce moment-là de placer tes joueurs comme aux échecs, placer tes joueurs pour éviter un contre. Ça s'appelle un marquage préventif, et depuis des années on se prend des contres avec un marquage préventif catastrophique. Et pour moi, voilà pourquoi je dis que c'est un bon défenseur, mais pas le défenseur que tout le monde s'imagine à l'Olympique de Marseille.
Mais on avait ce débat il y a quelques semaines. Tu penses pas que justement l'arrivée des tauliers là, de Medina, de Benjamin Pavard, de Naïef Aguerd aussi, ça peut lui rendre service et ça peut, parce que eux c'est les leaders dont tu parles. Et ce qu'avec eux, il peut pas se bonifier finalement.
Ça peut le faire grandir. En tout cas, voilà, moi, quand j'ai répondu à la question, j'estime que c'est un bon défenseur. Mais il y a, pour qu'il puisse passer le cap, il y a trop de d'erreurs techniques chaque match. À un moment donné, quand tu regardes l'Olympique de Marseille, pour ceux qui aiment l'Olympique de Marseille, t'as même l'impression que il va faire 90 minutes de folie. Et à un moment donné, boum, le penalty concédé, une erreur qui va faire coûter des buts à son équipe.
Je vois Kevin qui boit du petit lima.
Maintenant,
il m'a regardé avec un petit sourire.
C'est vrai que des recrues autour de lui, ça peut peut-être le forger. Est-ce que aussi, je sais pas, je me demande.
Ça va le déresponsabiliser un peu peut-être.
Est-ce que aussi c'est les gens se rendent pas compte qu'un brassard c'est lourd.
Ouais.
Surtout quand tu joues à l'Olympique de Marseille. Ça peut te faire déjouer aussi sur des actions, sur beaucoup de choses, et ça peut aussi te déconcentrer.
Mais Adil, moi je reste persuadé, on se bat tous les soirs avec Kevin et on va essayer de pas s'enflammer ce soir et de parler tranquillement.
Merci, c'est beau.
Moi en tout cas, c'est mon idée avant de démarrer ce débat.
Parce que toi, ton intention.
Exactement.
C'est pas sûr que ça tienne.
Exactement.
Si Kevin est très calme, très voilà, bien, regarde.
Mais moi je reste.
J'ai pas besoin de parler là.
Je reste persuadé que Balerdi est un très bon défenseur. Maintenant, le contexte marseillais, le contexte aussi du coach, parce que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Jouer à 40 mètres de son but, tu viens de l'expliquer avec Sampaoli, et jouer bloc bas pour un défenseur, c'est pour moi un métier différent.
C'est dur.
Avoir le brassard de capitaine aussi, peut-être.
C'est lourd.
Sûrement que c'est pas un leader, moi je suis d'accord avec toi. Sûrement qu'il va être aidé par les renforts de poids qui vont arriver. Il est au fond du trou, on l'a vu avec l'Argentine, on l'a vu avec avec l'Olympique de Marseille. De Zerbi, on a parlé aujourd'hui, notamment. Mais moi, j'estime que son boulot, son travail, les joueurs avec qui il a joué sur les dernières saisons, c'était pas suffisant en fait pour avoir une défense.
Il n'a pas été aidé.
Pour moi, il n'a pas été aidé. Quand tu joues avec Kondogbia, avec Murillo, avec Cornelius, avec Samuel Gigot, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, c'est des joueurs qui pour moi n'ont pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. Et cette année, et c'est pour ça que pour moi je vais l'attendre en tournant, il sera beaucoup mieux accompagné. Même si attention, hein, Jimmy, Medina, il était aussi aidé par un Danseau monstrueux. Pavard, on va pas en parler. Ouais. Les défenses avec qui il a joué, Aguerd, la même chose. Donc moi, je l'attends là-dessus, mais pour moi, ça reste encore un très bon défenseur et c'est un métier. Je vais pas te l'expliquer, Adil, mais où tu peux faire 85 minutes de très très haut niveau en faisant des choses extraordinaires et plomber ton match sur un mauvais repli, sur un mauvais alignement, alors qu'un attaquant demain, Salah, il peut perdre 9 duels.
Exactement.
Et gagner son duel à la 87e minute et faire gagner son équipe 1-0 et on dira qu'il a fait un super match. Donc ça aussi, moi pour moi, c'est à prendre en compte dans le packaging de l'analyse de Balerdi. Pour moi.
Après Balerdi, il a fait quand même des gros mois.
Oui.
Il a fait des gros mois, donc au moins déjà il a une base. On sait qu'il est capable de faire ça, mais il a quand même eu des bons défenseurs autour de lui. Mais c'est là où je te comprends. Mais là où je te dis qu'il c'est pas un leader, c'est que même si t'as des défenseurs moyens autour de toi, c'est à toi de les faire grandir. Oui. Réellement, t'es un leader.
Exactement.
Tu vois.
Après, il y a en fait, bon, moi j'ai rien à rajouter.
On conclut là-dessus.
J'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit, puisque je suis d'accord. Je dis pas qu'il est nul. Je dis que pour moi, il n'a pas le niveau d'être titulaire à l'Olympique de Marseille ou même avec l'Argentine. Maintenant, il y est, tant mieux pour lui. Il a l'air d'avoir une très bonne mentalité. S'il joue avec les différents entraîneurs,
sa place est en danger quand même.
C'est très bien. Je veux dire que c'est un bon gars de vestiaire, pas de problème. Par contre, il y a une chose qui est claire. Tout à l'heure, tu parlais de Benjamin Pavard. Vous disiez que dans l'intimité, vous l'appeliez l'agence touriste.
Ouais.
Et ben, Balerdi, c'est soit l'homme qui tombe à pic, soit c'est le looping de l'agent Torix.
Mais
c'est
il a préparé, celui... t'as eu 3 minutes de silence, il l'avait.
Mais c'est non, fort. C'est celui c'est qui fort. Va faire 90 minutes.
Sur looping.
90 minutes, une minute, une erreur, un but. Malheureusement pour lui, c'est souvent le cas. Il y a aussi un problème, je regarde les cartons jaunes, c'est un gars qui prend beaucoup trop de cartons, qui fait beaucoup trop de fautes.
C'est un défaut, c'est un défaut aussi qu'il a, c'est là où il doit grandir. C'est, je trouve qu'il se disperse à parler trop avec les arbitres, à râler.
Ça, c'est un problème.
Et ça, il faut qu'il arrive à grandir là-dessus parce qu'il perd de l'énergie et de la concentration. Et moi, je me rendais pas compte en étant joueur, même moi, je faisais ça. Hein. Et il faut que son staff lui dise parce qu'on le voit. Tout le temps en train de râler, tout le temps en train de...
Mais est-ce que c'est pas lié au brassard aussi, ça?
Parfois,
oui, il veut surjouer son rôle de maturité sur ça. Ouais. Voilà pour Léo Balerdi. Merci les gars. Putain, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on parle de Balerdi dans le calme. Merci Adil. Hein. Tu reviendras, t'as resté calmé tout ça. Tiens. Et Melvin qui nous dit, s'il vous plaît, embauchez Rami, un supporter parisien qui parle pourtant. Ses analyses d'objectivité, son recul sur les qualités qui ne sont pas données à tout le monde chez les consultants et journalistes. Voilà le message sur le chat YouTube. Dans un instant, on parlera également de... Tiens, tes trois défenseurs centraux qui te plaisent aujourd'hui. Je te laisse du temps pour réfléchir. Okay. Ceux qui te font vibrer, qui sont complets, en termes leader, techniquement, tactiquement. Tu nous diras ça dans la deuxième heure. Et puis on va parler aussi de. On écoutera sa mère, Véronique Rabiot, et puis de Paul Pogba, dont le retour est annoncé pour l'après deuxième trêve internationale à venir, en octobre. Reste avec nous, la suite de Génération After dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.